Vous allez écouter une chronique réalisée par les élèves de CE2 de l'école Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines.
Nous sommes les élèves du CE2 de l'école Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines. Le lundi 23 mai 2022, nous sommes partis de l'école pour une découverte de notre village. Aujourd'hui, nous allons vous raconter tout ce que nous avons vu et appris avec Lucienne, notre guide et notre maîtresse. Bien en rang, nous avons pris le chemin de Préville. Nous avons traversé ensuite le Cofrisé au passage piéton, ce qui nous a permis de réviser notre permis piéton et de nous entraîner à traverser une rue.
Nous avons ensuite traversé le jardin Dominique Corti où nous avons vu une première fontaine. Nous sommes passés devant l'église et Lucienne nous attendait sur le pont et nous a rejoints sur la place. Lucienne Mille-Poutingon est une pernoise de 83 ans que nous avons déjà interviewée et qui nous a raconté comment c'était la vie à Pernes. Aujourd'hui, elle va nous faire découvrir notre village.
Lucienne nous entraîne sur le pont sur l'Anesque. L'Anesque est la rivière qui traverse notre village. Elle prend sa source près d'Aurel au Mont Ventoux à une altitude d'environ 715 mètres. Elle alimente le plan d'eau de Monnieux puis creuse des gorges. Les gorges de l'Anesque qu'elle parcourt sur environ 25 km. Quittant la montagne, elle traverse les communes de Métamis, Blovac, Malemort-du-Comtat, Venasque, Saint-Didier et Pernes-les-Fontaines. Après cette ville et après avoir parcouru 53,3 km, elle se jette dans la Sorgue de Velleron après le pont de Capelli près d'Altan-les-Palus.
Sur le pont qui s'appelle le pont Notre-Dame, Lucienne nous apprend que Pernes était une ville-forteresse avec des remparts et qu'il n'y avait que trois portes pour rentrer dans la ville. La porte Notre-Dame, la porte Saint-Gilles, la porte Villeneuve.
Sur le pont, il y a une petite chapelle qui date de 1548 et qui a été détruite pendant la guerre. Et au bout du pont, la porte Notre-Dame. Du pont, nous apercevons les remparts qui datent du XVIe siècle. Avec leur chemin de ronde, il y avait 1672 mètres de remparts qui ont été démolis en 1841. Lucienne nous explique qu'avant la ville s'arrêtait aux remparts et qu'il n'y avait pas de maison après eux mais des champs cultivés des terres. Lorsque nous passons sous la porte, nous observons les anciens gonds de la porte qui était fermée tous les soirs pour protéger les habitants. On aperçoit aussi une porte dans les remparts.
Une fois à l'intérieur des remparts, nous arrivons sur la place du Cormoran et la magnifique fontaine. Elle a été construite en 1761 et remplace deux fontaines qui coulaient sur la place. Le lavoir qui était à l'époque accolé sur la fontaine qui est aujourd'hui contre les remparts.
La fontaine du Cormoran ainsi que toutes les autres construites à cette époque témoignent de l'importance de l'eau à Pernes à la fin du XVIIIe siècle. Son bassin est octogonal. Sur le pilier central, il y a 8 mascarons. Certains ressemblent à des visages. La devise de la ville est gravée dessus. Dei gratia inter alia lucet, ce qui signifie « Par la grâce de Dieu, elle brille entre toutes ». Les armoiries de notre ville sont sculptées plus haut. Le soleil est la perle d'argent. Ils évoquent la richesse et la fertilité du terroir. Au sommet du monument, il y a une sculpture, un cormoran avec un poisson dans son bec.
Sur cette place, nous découvrons aussi la halle couverte. Elle date du XVIIe siècle et a été construite en 1622 et 1627. Les angles de la charpente sont sculptés en forme de tête d'animaux. On rentre dans la halle par des escaliers en demi-cercle. En 1920, la halle est devenue un cinéma et Lucienne nous raconte qu'elle y allait avec ses parents. En 1967, le cinéma est détruit et la halle a été restaurée. Sous la halle, on voit des grosses clés. On s'est dit que c'était peut-être celle d'une des portes de la ville, mais en fait, ce sont les clés du comte Venessin. Il y a aussi des panneaux qui nous donnent de nombreuses explications sur le village.
On apprend que Perne s'appelait Paternae à l'époque des Gallo-Romains, jusqu'en 1936. Le village s'appelait Perne. Le 7 mai 1934, le maire Paul Chéron et son conseil municipal demandent que Perne devienne Perne-les-Fontaines. Ce nom deviendra officiel le 18 mars 1936.
Un autre panneau nous parle des armoiries de Perne que nous avons vues sur la fontaine du Cormoran. Elles datent du 20 octobre 1566. Le blason azur représente la force, la beauté et la fidélité. Il porte un soleil d'or et une perle d'argent à la pointe. Le soleil représente la splendeur de la ville. La perle représente la fécondité du terroir. Lucienne insiste bien sur la perle car beaucoup de gens croient que c'est une goutte d'eau. Perle, c'est la perle du comte Venessin.
Un autre panneau nous indique que la halle était un lieu de marché et on a vu les anciennes mesures qui étaient utilisées sur le territoire de Perne. Par exemple, il y avait la canne qui faisait 1,9685 mètres contre un des piliers de la halle. On peut voir l'étalon de la demi-canne qui servait à vérifier les mesures. C'est une barre en fer fixée au pilier. Sous la halle, il y a des pigeons qui ont réussi à nicher malgré tout les pics en fer.
En sortant de la halle de la place, on voit la tour de l'horloge avec sa girouette, avec un chat poursuivant une souris. Il y a aussi le drapeau français. Lucienne nous explique que c'est la seule partie qui reste du château des comtes de Toulouse qui date du XIIe siècle. En fait, c'était le donjon du château. Pendant un moment, ça a été une prison. C'est le plus haut monument de Perne-les-Fontaines. Et on n'en a pas fini avec cette place du Cormoran. De l'autre côté de la place, nous découvrons l'ancien abattoir municipal de Perne avec sa tête de mouton dans la façade. Maintenant, c'est une salle d'exposition.
Nous quittons la place par la rue Raspail et nous suivons les soleils peints sur le sol. Ces soleils guident les promeneurs pour une balade des ateliers d'artisans. Nous arrivons à la place Reboul, où là encore il y a une fontaine, la fontaine Reboul. C'est certainement la plus ancienne de Perne. À ce moment-là, on entend l'horloge qui sonne 10 coups. Le bassin est hexagonal et l'eau coule de la tête d'animaux. On l'appelle aussi Grand Fond. Sur cette place, il y a le musée de la Résistance et un grand marronnier.
En remontant encore la rue Raspail, nous arrivons à la place de la Juiverie. Au Moyen-Âge, une communauté juive vivait dans ce quartier. L'hôtel de Chélius est une grande maison dans laquelle il y a des bains juifs qui datent du XVIe siècle. Quand la place a été restaurée, on a découvert un autre bain. Sur cette place, il y a aussi le musée de Cycle.
Au fond de la place, sur le côté, il y a un petit chemin. Lucienne nous dit que derrière, il y a un jardin et la maîtresse nous dit qu'il s'appelle le Bourg-Merdeux. Ça nous a bien fait rire. En continuant à remonter la rue Raspail, une étrange tête sculptée en bois nous observe du creux d'un mur. Nous passons encore devant une fontaine.
Nous voilà arrivés à la porte Saint-Gilles. Nous avons traversé le village. La rue que nous venons de prendre, de la porte Notre-Dame à la porte Saint-Gilles, était avant la seule route qui existait pour aller de Saint-Didier à Carpentras en passant par Perne. La porte Saint-Gilles date du XIVe siècle. C'est la plus ancienne des portes de la ville. À l'étage, il y a une salle d'où était manipulée la herse qui fermait la ville. Sous cette porte, on peut voir des fresques qui ont été découvertes il y a quelques années, quand elle a été restaurée.
La fresque de Saint-Martin date de 1622. On voit aussi Saint-Gilles.
Nous continuons notre visite en longeant les remparts dans la rue des Lys. Et nous arrivons à un autre lavoir au bord de la route. Lucienne nous parle de la bugade. Avant l'invention du savon au XVIIe siècle, la lessive se faisait avec des cendres. Au printemps et à l'automne, les femmes du village se retrouvaient au lavoir pour laver leur linge. Et c'était une grande fête. Ensuite, nous prenons la traverse Montargues. Et là, nous remarquons que sous le goudron, il y a des galets qui apparaissent. Et une calade ancienne. Avant, toutes les rues étaient comme ça. On les a recouvertes de goudron pour circuler plus facilement.
Par la rue Cavalerie, nous arrivons à la place de la mairie. La cloche sonne 10h30, nous voyons encore deux fontaines. Nous entrons dans l'entrée principale de la mairie dans une cour. La mairie est dans l'ancien hôtel de Branca qui était construit au XVIIe siècle. Monsieur de Branca et sa femme avaient 12 enfants. Par une porte, on voit l'escalier de la maison qui était tout usé. Lucienne nous raconte que Monsieur de Branca a monté ses escaliers avec son cheval.
La mairie est en train d'être restaurée. Nous ne rentrons pas et nous traversons les jardins de la mairie pour arriver sur la place Aristide Briand. Dans la rue de la Margelle, nous sentons une bonne odeur de pain en passant devant la boulangerie. Et nous voilà arrivés sur la place Louis Giraud. Louis Giraud a été un des maires de Pernes et c'est lui qui a fondé le canal de Carpentras. Sur cette place, on peut voir le monument aux morts, le centre culturel des Augustins, une fontaine et l'école Louis Giraud.
Le centre culturel est une ancienne église qui a été construite en 1867 à l'endroit où il y avait le monastère des Augustins dont il ne reste aucune trace. Ça a été une église jusqu'en 1955. Lucienne y a fait sa communion il y a 72 ans. Depuis 35 ans, c'est un centre culturel. Lucienne nous explique que la cloche de l'église a été mise sur le clocher de la tour de l'horloge.
L'école Louis Giraud a été construite en 1894 sur le cloître du monastère des Augustins. Elle a 128 ans. À droite, il y avait l'école des garçons et à gauche, l'école des filles. On le voit écrit. C'est la seule école de Pernes, l'Escolo Comunalo. Les filles et les garçons étaient séparés par un mur dans lequel il y avait une porte. Lucienne nous raconte que quand elle était à l'école, les garçons avaient fait un trou dans la porte pour regarder les filles. Les filles, elles, mettaient des bouts de papier pour reboucher le trou.
Par la rue Neuve, on va voir derrière l'école où était l'école maternelle de Lucienne. Là, il y avait une porte en bois à la place du portail. Tous les matins, il y avait une personne à l'entrée qui regardait les mains des enfants. Si les mains étaient propres, on pouvait entrer. Si les mains étaient sales, elle mettait les enfants derrière son dos. Il allait se laver les mains devant d'entrer en classe. À ce moment-là, la cloche a sonné 11 heures. Ensuite, la rue Neuve nous passons devant un jardin avec une fontaine qui a été donnée à la ville par Madame Terrasse. C'est le jardin du moulin de Régis, un moulin à huile du XVIe siècle.
Ensuite, nous arrivons dans la rue Victor Hugo et nous nous arrêtons devant la fontaine du Gigot. Cette fontaine a été construite en 1757. Par le constructeur de la fontaine du Cormoran. Elle s'appelle comme ça parce que sur le haut, au-dessus d'un vase, il y a une forme qui ressemble à un gigot. À côté de cette fontaine, il y a la tour Ferrande. C'est une tour carrée de 3 étages qui date du XIIe siècle. À l'intérieur, Lucienne nous dit qu'il y a des fresques du XIIIe siècle.
Nous revenons sur nos pas et dans la rue Vontabrunn, nous passons devant l'ancienne maison des orphelins. C'est là que l'on mettait les enfants orphelins et que les familles qui ne pouvaient pas nourrir leurs enfants les amenaient. Dans le mur de cette maison, il y a deux plaques. Sur une plaque, on peut lire « Orphanos ». Derrière la maison des orphelins, il y a le château de la Caritas. Les fenêtres qui donnent sur l'orphelinat sont toutes petites, car les personnes qui vivaient là ne voulaient pas voir les orphelins.
Au bout de cette rue, nous arrivons sur le quai de Verdun et nous passons devant le château d'Anselme, construit au XVIe siècle. Par une passerelle, nous repassons sur la Nesque et revenons sur la place Notre-Dame de Nazareth où il y a l'église.
Cette église date du XIe siècle. Jusqu'à là, ce n'était qu'une petite chapelle située en dehors des remparts. Sur la façade, il y a des cadrans solaires du XVIe siècle. Au moment où nous sommes passés, un cadran indiquait 9h30 à l'heure du soleil. Il était donc 11h30 pour nous. Il était donc temps pour nous de retourner en classe. Nous avons remercié Lucienne pour cette belle promenade très intéressante et très instructive. Nous avons repris les chemins de notre école.
Vous venez d'écouter une chronique réalisée par les élèves de CE2 de l'école Jean Moulin de Pernes-les-Fontaines.